Bonjour à chacun, à chacune. Une joie de partager ce temps où on tourne nos regards vers Dieu avec vous ce matin, tous ensemble. Et j'avais initialement prévu de poursuivre la série qu'on a entamée en septembre sur la lettre aux Hébreux. Quand d'un coup, en regardant un petit peu de plus près l'agenda, je me suis dit, mais on est à 15 jours de Noël. Et je suis sûr qu'il y aurait matière à très certainement à raccrocher ce qu'on allait voir dans Hébreux à la thématique de Noël. Mais je me suis dit que c'est chouette de faire aussi peut-être une pause pour nous pencher justement sur un texte, un passage de la parole de Dieu qui nous parle de manière plus particulière de Noël. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, dans le courant de votre vie, j'imagine que oui, pour une majorité d'entre vous, de recevoir un faire-part de naissance. Un faire-part de naissance. Quelque chose que quand vous recevez à la maison, vous devenez d'un coup au courant que quelqu'un dans votre entourage, un membre de la famille, un proche, des amis, ont eu un bébé est né. Et puis sur ce faire-part, donc ça c'est celui qu'on a envoyé pour la naissance de notre dernier, Samuel, ben on communique différentes informations. Alors je l'avoue, je ne sais pas quel est l'intérêt de toutes ces informations, mais en tout cas on y communique la date de sa naissance, son poids, parfois sa taille, et puis ben là on a choisi aussi un verset qui nous a accompagné, qui nous a touché pendant le temps de la grossesse de Priscille et puis avec cette naissance. Et ce matin, ce que je veux vous parler, ce dont je veux partager avec vous, c'est aussi, il est aussi question d'un faire-part de naissance. Mais pour Matthieu, celui qui a écrit donc l'évangile qui porte son nom, Matthieu n'a pas envoyé un faire-part de naissance de ce type-là. Matthieu, il a envoyé un faire-part de naissance à tous ceux qui lisent son évangile, qui ressemble plutôt à un arbre généalogique. Et puis vous savez, quand on envoie un faire-part de naissance, en général, voilà, on met au courant notre entourage que le bébé est né, et on partage quelques nouvelles. Et ensuite, quand on rencontre les personnes, et qu'on les voit en face à face, on leur parle. Je ne sais pas si, par contre, pour la vidéo, c'est l'idéal. C'est bon ? Et ensuite, une fois qu'on voit les personnes en face à face, on va leur expliquer les détails de cette naissance. Eh bien, Matthieu fait un petit peu pareil. Dans les versets 1 à 17, il va faire part de la naissance de Jésus. Et après, on va voir au verset 18, il dit « Et voici comment s'est déroulée cette naissance. » Et nous, ce matin, j'aimerais qu'on s'arrête particulièrement sur les 17 premiers versets, sur le faire part en lui-même. Je vous invite donc à prendre Matthieu chapitre 1, les versets 1 à 17. Et je vais le lire. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac eut Jacob. Jacob eut Judas et ses frères. Judas eut Pérets et Zérak de Tamar. Pérets eut Hetsrom. Hetsrom eut Aram. Aram eut pour fils Aminadab. Aminadab eut Nachon. Nachon eut Salmon. Salmon eut Boaz de Rahab. Boaz eut Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David. Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. Salomon eut pour fils Roboam. Roboam eut Abija. Abija eut Asa. Asa eut pour fils Josaphat. Josaphat eut Joram. Joram eut Ozias. Ozias eut pour fils Jotham. Jotham eut Akaz. Akaz eut Ézéchias. Ézéchias eut pour fils Manassé. Manassé eut Amon. Amon eut Josias. Josias eut pour descendant Jéconias et ses frères à l'époque de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias eut pour fils Shealtiel. Shealtiel eut Zorobabel. Zorobabel eut pour fils Abihud. Abihud eut Éliakim. Éliakim eut Azor. Azor eut pour fils Sadoc. Sadoc eut Hachim. Hachim eut Éliud. Éliud eut pour fils Éléazar. Éléazar eut Matan. Matan eut Jacob. Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Jusqu'ici, c'était la lecture de la parole de Dieu. Et peut-être qu'à la lecture de cette longue généalogie, vous vous dites, Michael, t'es vraiment sérieux. Tu veux nous parler de Noël à partir de cette série et de cette liste de noms qui semblent interminables. Et je l'avoue, pas toujours très agréable à lire, parce que c'est clair, je suis parfois le premier à passer, à sauter assez rapidement toutes ces généalogies qu'on peut trouver à différents endroits de la Bible. C'est pas toujours intéressant à la première lecture, c'est un petit peu fastidieux et c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de zapper. Mais je crois que si Dieu a fait le choix d'inspirer aux hommes de mettre dans sa parole, de mentionner ces généalogies, c'est qu'il a vraiment un message important. Il y a un but à cela, il veut nous communiquer quelque chose au travers de cela. Et j'ai eu l'occasion de relire, je n'ai pas fini d'ailleurs, ce livre de Timothy Keller qui s'appelle « Noël caché » où il revisite les différents textes de la naissance de Jésus en amenant un éclairage et ouais, j'ai trouvé juste intéressant. Et justement, il mentionne ces généalogies, cette généalogie et beaucoup des choses que je vais vous partager ce matin sont inspirées de ce qu'il met en lumière et qui m'ont profondément touché de découvrir des choses que je savais, que j'ai revisité, d'autres que je ne savais pas, et j'ai juste trouvé ça vraiment chouette. Quand on tombe sur une généalogie dans la Bible, il y a un message. L'auteur veut nous communiquer quelque chose à ce propos. Dans l'évangile de Matthieu, Matthieu, au travers de tout son évangile, veut nous présenter Christ, Jésus, en tant que roi. Et dès le début, il est en train, au travers de cette généalogie, de dire « Voici Jésus, votre roi ». Et de telles généalogies, on va dire en général dans la parole de Dieu, communiquent au moins deux messages importants. Le premier, c'est que ce n'est pas une histoire fictive, mais il s'agit d'une histoire réelle. Quand vous recevez un faire-part, ce n'est pas une blague, c'est réel. L'enfant qui est mentionné sur ce faire-part est réellement né. Et là, au travers d'une telle généalogie, d'un tel faire-part, c'est pour dire tout cela est bien réel. On peut remonter les faits au travers de ces différents personnages qui ont vraiment existé. La deuxième chose, c'est qu'il s'agit plus, pour chaque prénom qui est inscrit dans cette liste, il s'agit plus que d'une naissance. Mais il y a eu un avènement, il y a toute une histoire à chacune de ces personnes. Chacune personne est née de parents qui ont eu d'autres parents. Il y a toute une histoire, il y a un avènement qui a amené jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Et ce matin, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est trois enseignements qu'on peut retirer et qui sont propres à cette généalogie que Matthieu nous relate. Et le premier enseignement qu'on peut retirer est celui-ci. Jésus, voici Jésus votre roi. Jésus est un roi qui renverse les valeurs de notre monde. Comment est-ce qu'on se présente à quelqu'un en général qu'on ne connaît pas? De manière générale, le plus souvent, il y a peut-être différentes façons, vous avez des idées? Ouais, on commence par donner son nom, son prénom, et en général, après, on dit... J'ai entendu? Ouais, on dit ce qu'on fait. Je parle de mon métier, je parle peut-être de ce que je fais ouais, professionnellement, peut-être après je parle un petit peu des diplômes, de mon cursus d'études. Parce qu'on vit dans une société qui est axée sur les individualités, qui met en valeur l'individu. Mais ce n'était pas comme ça que ça fonctionnait au temps de Matthieu, dans le contexte de Matthieu en Israël. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans toutes les sociétés. Il y a des sociétés beaucoup plus collectives, où dans ces sociétés, c'est la famille, c'est le groupe qui est mis en valeur, la famille, la tribu. Et Matthieu est dans ce contexte-là. Et vous savez, on peut comparer un petit peu aussi ces généalogies, alors je l'ai comparé à un faire-part de naissance, mais on peut aussi comparer ces généalogies un petit peu à des CV, des curriculum vitae. C'est une manière de dire un petit peu, voilà qui je suis. Un CV va présenter notre parcours professionnel. Une généalogie va dire, voilà qui je suis au travers de mon histoire, au travers de ma famille, au travers de mes ancêtres. Et de la même manière qu'il est possible de tricher sur un curriculum vitae en omettant certaines parties de notre parcours qui n'ont pas été forcément glorieux, il était aussi possible à l'époque de tricher sur ces généalogies et de ne mettre, de ne mentionner, et ça a été le cas dans l'histoire, de ne mentionner que des personnes de sa famille, que des ascendants qui ont une histoire intéressante, qui avaient des choses dont on était fier. Et ce qui est intéressant ici, au travers de cette généalogie, c'est que Matthieu ne cache rien sur qui est Jésus. Il ne cache rien. Et une chose qu'on peut relever, et peut-être vous avez fait attention ou pas, il mentionne 5 femmes dans cette généalogie. Et ça, c'est quelque chose de très surprenant, toujours en se plaçant dans le contexte de Matthieu, où il vivait dans une société qui était très patriarcale. Les hommes étaient essentiellement mis en valeur et on ne citait peu les femmes parce qu'elles étaient peu valorisées. D'ailleurs, 3 d'entre ces femmes ne sont pas juives. Tamar, Rahab, Ruth, 3 femmes qui étaient étrangères au peuple de Dieu. Et ces peuples étaient donc impurs, tenus à l'écart, ils n'avaient pas accès au temple, ils n'avaient pas accès au tabernacle, et pourtant, Matthieu inclut ces femmes dans cette généalogie. Il ne le cache pas. Autre chose surprenante par rapport à ces femmes, et puis aussi par rapport à plusieurs hommes qu'on voit dans cette généalogie, c'est qu'on se rend compte que quand on regarde dans le détail de leur vie, elles n'avaient pas une vie très morale. Ce n'était pas le genre de vie, le genre de situation qu'on avait envie de mettre dans un CV. Tamar, verset 3, une femme qui a couché avec son beau-père, de qui est né Judas. Donc il y a eu un inceste qui était clairement interdit par la loi de Dieu. Rahab, verset 5, une femme aussi étrangère au peuple de Dieu, une cananéenne, qui était-elle? Une prostituée. Et puis on a David au verset 6, et là on se dit, ah, c'est chouette quand même, David, qui ne voudrait pas avoir le roi David dans sa généalogie? un roi David, un homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, qu'est-ce qui est mentionné au verset 6 ? David qui a eu Salomon avec la femme d'Uri. L'auteur ne mentionne pas Bathsheba, cette femme avec qui David a commis l'adultère. Non pas pour mépriser cette femme ou mépriser son nom, ce que ça représente, mais là il veut mettre l'accent sur la faute de David. David a eu Salomon avec la femme d'Uri. Ce roi, selon le cœur de Dieu, a commis l'adultère. Et au-delà de l'adultère, il a commis le meurtre, puisqu'il ira jusqu'à tuer Uri, cet homme, le mari de cette femme. Un événement terrible, un événement tragique. On a dans cette généalogie des hommes, des femmes qui ont commis l'adultère, qui ont commis l'inceste, qui se sont prostituées, qui ont commis des meurtres, qui viennent ou qui font partie de familles totalement dysfonctionnelles. Et Matthieu nous dit, voici Jésus, votre roi. Regardez d'où est-ce qu'il vient. Regardez ces personnes qui sont incluses et que Jésus a choisi, que Dieu a choisi comme lignée pour faire naître Jésus, le Messie. Alors, quelques implications de cela. C'est que si des hommes et des femmes du peuple de Dieu ou extérieurs au peuple de Dieu, qui étaient parfois exclus à cause de leur culture, qui étaient parfois mis à la marge de la société, exclus parfois même par la loi de Dieu, si ces personnes ont pu rejoindre la famille de Jésus, cela signifie que peu importe aujourd'hui que vous soyez un homme ou une femme, peu importe votre nationalité, peu importe votre place dans cette société, peu importe vos diplômes, votre histoire, que votre vie soit une succession d'échecs, de ratés ou de loupés, par la repentance et par la foi, aujourd'hui, chacun peut aussi faire partie de cette famille. Jésus a dit, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Toutes les personnes mentionnées dans cette généalogie le sont par grâce, par pure grâce. Et même après sa naissance, quand Jésus va commencer son ministère, on voit qu'il allait vers les personnes fracassées par la vie, par les laissés pour compte, par les veuves, vers les lépreux, vers les enfants, pour leur offrir sa grâce. Et on l'a rappelé ce matin, Jésus n'a pas rejeté cette femme qui était impure, qui avait ses pertes de sang, mais elle a été guérie, sauvée par sa foi. L'auteur du livre que j'ai mentionné dit ceci, « Tous ont besoin de la grâce de Jésus-Christ, même le meilleur des êtres humains. Tous peuvent recevoir la grâce de Jésus-Christ, même le plus mauvais des êtres humains. » Une autre implication de cette vérité, de ce roi qui vient renverser nos valeurs, je l'ai dit tout à l'heure, on vit dans une société individualiste et où les membres d'un groupe sont encouragés même à mépriser les autres, une manière par cela de se sentir supérieur. Ceux qui ont fait de hautes études sont encouragés à mépriser ceux qui sont peut-être moins intellectuels et vice-versa. Les groupes de personnes qui sont peut-être moins intellectuels vont mépriser ceux qui ont fait des hautes études. Les membres d'un parti politique sont encouragés à mépriser ceux d'un autre parti qui ont des idées différentes. Ceux qui sont riches méprisent ceux qui sont pauvres et ceux qui sont pauvres méprisent ceux qui sont riches.
On peut mépriser des personnes qui sont d'une couleur de peau différente. On peut mépriser des personnes qui sont d'une nationalité différente. On peut mépriser un département différent de le sien. Et je ne mentionne pas du tout ce qui se passe entre la Drôme et l'Ardèche, par là. On peut mépriser une équipe sportive différente. Et là, je ne mentionne pas non plus ce qui se passe entre l'OM et le PSG ou entre Lyon et Saint-Étienne. On peut mépriser ceux qui ont des centres d'intérêt différents. Ma question ce matin, elle est, quelle trace de ce fonctionnement est-ce que je trouve encore dans ma vie, dans mon propre cœur, encore en tant que chrétien, membre de la famille de Dieu? Les valeurs de Jésus-Christ sont différentes. Ces critères si importants dans ce monde, dans cette société, ne devraient pas se retrouver dans l'Église. Jésus est ce roi qui renverse, qu'il est venu pour renverser les valeurs de notre monde. Nous sommes des bras cassés, faits de la même pâte brisée, petite parenthèse pour ceux qui aiment la cuisine, qui avons été accueillis par grâce dans la famille de Dieu. Il est dit dans l'Épître aux Hébreux qu'on parcourt en ce moment, au chapitre 2, que Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Alors qu'en cette période de Noël, nous puissions demander au Seigneur de continuer à transformer nos cœurs, d'y placer ses valeurs et de nous regarder les uns et les autres. Et je parle essentiellement ici dans le contexte de l'Église, de la famille de Dieu, de nous regarder les uns les autres avec le regard au travers duquel Dieu nous regarde chacun les uns les autres. Deuxième enseignement de cette généalogie, voici Jésus, votre roi. Un roi qui renverse les valeurs, c'était la première, et un roi qui tient ses promesses. On voit au travers de toute cette généalogie que l'accomplissement de la promesse d'un Messie a pris de nombreuses générations. Il est dit au verset 1 que Jésus est le fils d'Abraham, et cela nous renvoie à la Genèse, où Dieu avait fait une promesse au patriarche Abraham. Il avait dit, au travers de toi, je vais bénir toutes les familles de la terre. Et de ce moment, de cette promesse que Dieu a faite à Abraham, jusqu'à cette naissance de Jésus-Christ, qui est celui qui était promis, dont Dieu parlait à Abraham, la naissance de Christ, plus de 2000 ans se sont écoulés. Vous savez, la période intertestamentaire, entre la fin, le moment où Dieu a envoyé les derniers prophètes dans son peuple, et puis ce passage de Matthieu, où on passe dans le Nouveau Testament avec cette généalogie, il y a eu 400 ans, 400 années de silence de la part de Dieu. Plus un prophète n'a été envoyé. 2000 ans de Abraham à la naissance de Jésus, 400 ans de silence de Dieu depuis l'envoi du dernier prophète jusqu'à la naissance. Mais Jésus est né. Dieu n'oublie pas ses promesses. Même si parfois cela peut sembler long, il n'est pas contraint par notre calendrier. Et quand il les réalise, on se rend compte que c'est bien souvent au-delà de toute espérance. On peut regarder la vie de Joseph. Waouh, c'est une vie qui ne donne pas envie, c'est bien celle de Joseph. Il était préféré de son père. Ça a déclenché la jalousie de ses frères qui l'ont vendu comme esclave en Égypte. Il a fait de la prison, oublié à de nombreuses reprises, pour finalement se retrouver comme prince d'Égypte. Et un moyen par lequel Dieu va utiliser Joseph pour faire du bien à son peuple pendant une période de famine. On peut regarder la vie de Jésus, le ministère de Jésus. Rappelez-vous, cet homme qui vient voir affoler Jésus pour lui dire « Ma fille, elle est malade, elle est sur le point de mourir. » Et Jésus lui dit « Je vais venir, je vais faire quelque chose. » Et puis en chemin, il s'arrête pour guérir une femme. Il prend son temps et bien sûr, cette fille va mourir. Et quand Jésus arrive, cet homme, il va redonner vie à cette fille et manifester sa puissance et sa gloire. Jésus n'est pas né dans un palais, mais dans une étable. Jésus n'est pas venu vaincre le mal, la mort et nos péchés avec des armes. Mais cela a été aussi rappelé ce matin. C'est dans un état de faiblesse, en totale humiliation, par la souffrance, qu'il est mort sur la croix et qu'il nous a sauvés. Dieu avait promis un Messie qui viendrait sauver son peuple de ses péchés. Et cela s'accomplit. En Jésus-Christ, Dieu tient ses promesses. Quelles implications pour nous ? Peut-être que vous vous dites ce matin, ok, Dieu tient ses promesses, c'est vrai. Et pourtant moi, je galère tellement à tenir les miennes. D'ailleurs, il suffit un petit peu de regarder à ma propre vie et c'est un peu le chaos, c'est un peu un désastre. Dans cette généalogie, on voit des hommes et des femmes dont la vie n'était pas vraiment brillante. On pourrait mentionner simplement Jacob, en plus de tout ce qu'on a évoqué précédemment. Jacob, cet homme qui a menti, cet homme qui a trompé son père, qui a trompé son frère, qui lui a piqué son droit d'aînesse, et qui, par ses choix, s'est déclenché la haine de son frère, qui a dû fuir sa famille, qui a dû quitter son pays. Il a été confronté à de terribles conséquences liées au choix qu'il a fait. Et pourtant, un jour, ce Jacob rencontre Léa et il va avoir avec Judas un descendant de la lignée de Jésus-Christ. Dieu est plus grand que nos promesses non tenues. Dieu est plus grand que notre péché. Il s'est servi de Jacob, de sa vie, de ses coups tordus, de ses supercheries pour accomplir sa promesse. Dieu tient ses promesses. On peut lire par exemple dans la parole de Dieu que pour ceux qui croient, voilà ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Comme c'est la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants. Alors soyez sûrs que si c'est le cas pour vous ce matin, Dieu va accomplir cela. Même si vous ne tenez pas toujours vos promesses, même si à vos yeux vous chutez encore trop souvent dans des choix, dans des choses qui sont parfois et que vous savez contraires à la volonté de Dieu. Même si vous avez l'impression de faire du surplace sur le plan spirituel ou même parfois de régresser, si vous avez le sentiment d'avoir pris ces dernières semaines de la distance par rapport à Dieu, eh bien, sachez que Dieu ne vous lâche pas. Dieu est en train d'agir au travers de vos vies. Il est en train d'œuvrer à ce que vous puissiez progresser en sainteté, même si vous ne le voyez pas à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce que c'est sa volonté. C'est des promesses que Dieu nous donne. Et Dieu tient ses promesses. Alors qu'en cette période de Noël, on se rappelle que Dieu est ce Dieu qui tient ses promesses. Et enfin, troisième et dernier enseignement, on voit que Jésus est ce roi qui est le repos par excellence. Au verset 17, il est mentionné 3 fois 14 générations. 14 générations de Abraham à Jésus, 14 générations de Jésus, 14 à génération, 3 fois 14 générations de Abraham à Jésus, ce qui fait 6 fois 7 générations. On a 6 septaines avant Jésus, ce qui place Jésus où ? Au début de la 7e septaine. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Le chiffre 7 a une symbolique forte dans la Bible, n'est-ce pas ? Cela peut nous rappeler le récit de la création dans Genèse,
Dieu qui crée toute chose en 6 jours et le 7e jour, Dieu se repose. Bon, cela peut nous rappeler ce qui était dit dans la loi de Moïse, où tous les 7 ans, les agriculteurs devaient laisser leur terre en jachère, c'est-à-dire une année, la 7e année, pendant laquelle la terre allait se reproduire, allait se reposer. Et puis si on va dans le livre de Lévitique au chapitre 25, on voit que la dernière année d'une série de 7 périodes de 7 ans, c'est-à-dire la 49e année, c'était l'année du jubilé. Qu'est-ce qui se passait pendant cette année? Eh bien, cette 49e année, les esclaves devaient être libérés. Les dettes devaient être remises. Toute la terre, toutes les terres et leurs habitants devaient se reposer de leur tracas et être libérés de leur fardeau. La 7e septaine, c'était le sabbat des sabbats, le repos des repos, un avant-goût du repos ultime dans lequel nous entrons lorsque Jésus nous accueille dans sa famille et de manière ultime quand Jésus-Christ reviendra. Et Matthieu dit, en présentant cela, finalement que le repos ne peut venir que de Jésus-Christ. Et ce repos, chacun peut en profiter dès aujourd'hui. Alors peut-être vous vous posez cette question, se dire, mais comment est-ce que je peux concrètement vivre ce repos? De nouveau, nous vivons dans une société qui nous martèle constamment qu'aujourd'hui, pour être quelqu'un, pour exister, il faut cocher un certain nombre de critères. Peut-être que vous avez grandi dans une famille qui a mis la barre haute, qui a placé de grandes exigences, de grandes attentes envers vous. Vous deviez viser constamment l'excellence dans tout ce que vous faisiez. Peut-être aujourd'hui vous êtes dans une entreprise, dans une boîte, où votre responsable hiérarchique vous met une pression immense pour que vous donniez toujours plus. Ce n'est jamais assez bien. Peut-être que votre mari ou votre épouse a des exigences élevées à votre égard. Peut-être que vous donnez tout ce que vous avez pour maintenir ou pour essayer de sauver une amitié que vous avez avec quelqu'un. Peut-être. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes épuisé. Épuisé parce que, en fait, vous n'êtes jamais vraiment arrivé à satisfaire les exigences de vos parents. Épuisé parce que vous n'arrivez pas à suivre la cadence infernale qu'exige votre responsable hiérarchique. Épuisé de ne jamais vous sentir à la hauteur aux yeux de votre mari ou de votre épouse. Épuisé par tous les efforts que cela nécessite d'entretenir cette amitié. Personnellement, je suis parfois épuisé parce qu'au fond de mon cœur, je me suis rendu compte ces dernières années que je faisais ou ne faisais pas certaines choses par crainte des hommes, par crainte d'être rejeté. Et c'est épuisant parce que c'est juste impossible de plaire à tout le monde. Et aujourd'hui, ce qui me repose, ce qui m'apporte du repos quand je fais face à cela, c'est de revenir à ce message de l'Évangile. C'est de me rappeler qu'avec Jésus, je n'ai plus besoin de faire mes preuves. Alors que j'étais et que je reste aussi imparfait que chacune des personnes de cette généalogie. Jésus, par grâce,
a fait de moi son enfant. Et je n'ai besoin que de cette grâce qui m'a été offerte indépendamment de mes manquements, indépendamment de mes défaillances. Et quand je vis ce repos intérieur qu'apporte l'Évangile, alors la motivation de plaire à Dieu et de tout faire pour Dieu, pour sa gloire, reprend le dessus. Alors qu'en cette période de Noël, nous puissions nous rappeler que grâce à Jésus, le repos par excellence, nous n'avons pas besoin de faire nos preuves. Et je termine. Nous avons vu que Jésus est ce roi qui est venu pour renverser les valeurs de notre monde, que Jésus est ce roi qui a accompli ses promesses, et que Jésus est ce roi qui est le repos par excellence. Qu'en cette période de Noël, nous fêtons la naissance de ce roi extraordinaire, que ce soit l'occasion pour chacun de nous de nous rappeler que parce que Jésus est ce roi qui renverse les valeurs de notre monde, qui que je sois, quel que soit mon passé, je peux dès aujourd'hui faire partie de sa famille par la repentance et la foi. Que parce que Jésus est un roi qui renverse les valeurs de notre monde, je peux continuer de demander à Dieu de transformer mon cœur pour voir chacun de mes frères et sœurs avec son regard. Parce que Jésus est un roi qui tient ses promesses, je peux avoir confiance qu'il tiendra ses promesses que je trouve dans sa parole. Et parce que Jésus est un roi qui est le repos par excellence, je n'ai plus besoin de faire mes preuves aux yeux de Dieu. Alors c'est un petit peu tôt pour cela, mais quand même, on est dans cette période de Noël. Et c'est avec ces pensées que je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël. Seigneur notre Dieu, merci pour ce cadeau immense que tu nous as fait. Merci pour ce que tu nous as offert. Et c'est beau de se rappeler au travers de cette liste de noms qui, oui, au premier regard comme ça, ne nous semble pas très attrayante. Et pourtant, elle est riche d'enseignements. Merci parce qu'elle nous parle avant toute chose de qui tu es. Ce Dieu plein d'amour, ce Dieu plein de grâce, qui n'a pas voulu nous laisser dans notre état de péché, Seigneur, mais qui a façonné l'histoire, qui a œuvré en utilisant des hommes et des femmes bien imparfaites, et dont tu t'es servi et pour un jour naître sur cette terre et aller offrir ta vie sur cette croix pour nous, Seigneur. Alors je veux te louer, je veux te bénir, et t'exprimer toute la reconnaissance de mon cœur. Tu es un Dieu qui est merveilleux et tu es digne d'être loué, d'être adoré, d'être celui vers qui nos pensées se tournent en cette magnifique période où on célèbre ta naissance. Amen.